Me kesepastil.
Oh, me kesepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue dans Les Nouvelles du Monde pour ce jeudi 29 février. Aujourd'hui, pas vraiment de fil directeur, on va parler de pas mal de choses différentes. On va commencer avec des communiqués, des appels à manifester ou à s'organiser. On va parler de la situation humanitaire en Palestine, du service national universel, des coupes franches dans la fonction publique et notamment du côté du ministère de la Culture, des balades en forêt qui peuvent aussi vous coûter cher maintenant, et enfin de la répression des militants environnementaux. Ça commence à être quelque chose qui revient de plus en plus souvent. Mais en guise de préambule à toutes ces réjouissances, donc plusieurs communiqués et appels relayés par la boîte mail sur Radio Escapade que vous trouverez sur notre site, où vous écrivez à contact@radioescapade.org ou bien info@radioescapade.org. Voilà un premier appel pour organiser, donc à préparer l'organisation d'une Pride au mois de juin au Vigan. Voilà, une Pride, une marche des fiertés, donc c'est un peu un nom dérivé de ce qu'on appelait avant la Gay Pride, mais qui maintenant, eh ben justement, regroupe beaucoup plus de réalités, de minorités de genre ou sexuelles. Alors pourquoi une Pride au Vigan, commence cette interrogation. Depuis quelques années, des Prides s'organisent dans les campagnes. Il s'agit donc de défilés festifs, joyeux et déterminés pour visibiliser les existences de personnes LGBTQIA+. Tout cela pour rompre avec la stigmatisation et l'isolement, souvent plus important dans les territoires ruraux où l'anonymat n'existe pas et où les lieux pour se retrouver et se sentir libre d'être soi-même sont rares. Ces prides sont donc l'occasion de se réapproprier les rues et les places des bourgs que l'on fréquente quotidiennement pour pouvoir se sentir fort et forte ensemble, libre de s'exprimer sur les orientations sexuelles et les identités de genre, sur les vécus et les combats de chacun et chacune. La réunion, j'ai oublié de le dire, se fera au local La Petite Base, donc au Vigan, et ça sera ce 12 mars. Alors l'organisation donc, de cette Pride au mois de juin se portera sur des bases féministes, anti-autoritaires et en mixité choisie, ça veut dire 100 mecs, 6 hétéros. Oui, c'est quand même l'idée d'une Pride. L'idée serait d'organiser une marche des fiertés qui se démarque du côté mercantile, normalisé et dépolitisé, de la plupart, justement, des événements de ce type qui peuvent avoir lieu dans les grandes villes, et de dénoncer aussi l'homonationalisme. Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, je m'en renseignerai pour la prochaine fois. Dénoncer également le masculinisme et la transphobie qui s'intensifie. En gardant en mémoire que les premières marches historiques étaient clairement des moments de lutte, et avec la certitude que nombreuses sont les batailles qui nous restent à mener. Cette première réunion donc aura lieu à la Petite Base, c'est place de la mairie au Vigan, le mardi 12 mars à 18h, on n'y est pas encore, mais notez déjà la date. Ce moment sera donc l'occasion de se rencontrer, de se compter et de voir ensemble quelles sont les motivations. Il y aura d'autres réunions par la suite, si vous ne pouvez pas être là à la première, il y aura donc possibilité aussi de prendre le train en marche si vous souhaitez malgré tout participer à l'organisation de cette Pride possible au mois de juin, et ça sera au Vigan. On descend à Ganges maintenant, où le collectif pour le maintien de la maternité de Ganges organise une nouvelle rencontre publique. C'est aujourd'hui à 18h, c'est au local de l'autre côté, rue Biron à Ganges, pour faire un état des lieux de l'obstétrique et de l'IVG sur le territoire, en vue également de la prochaine réunion avec l'Agence régionale de santé qui aura lieu le vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et on célèbre aussi tristement de l'autre côté, à ce local, justement, l'anniversaire de la fermeture de la maternité du Vigan, avec une exposition que vous pouvez aller visiter encore dans le local. Et sur, si vous inscrivez à leur newsletter, je crois qu'il y a un site Facebook, vous trouverez aussi des vidéos, des témoignages justement de ce qui est de la réalité d'aujourd'hui, des femmes qui doivent accoucher dans le secteur, qui doivent très souvent faire de la voiture ou peut-être même risquer d'accoucher dans leur voiture. Alors, pour ce qui est de la maternité de Ganges, il y aura donc, en plus de cette réunion ce soir, jeudi 29 mars, le 8 mars, je le disais, donc un grand rassemblement devant la clinique. C'est à 11h30. C'est une journée d'appel à la grève aussi qui a été faite par les organisations syndicales du territoire pour mettre en avant la nécessité d'une égalité homme-femme sur les salaires, les conditions d'accès à l'emploi, revaloriser les emplois essentiellement féminins, etc., etc. Donc une journée syndicale, mais qui va se commencer devant la maternité de Ganges pour réclamer une fois de plus la réouverture de ses services. C'est à 11h30, il y aura un pique-nique grillade féministe devant la clinique et à 12h30, départ du cortège de manifestation dans les rues de Ganges. Et puisqu'on parle justement des droits des femmes à disposer de leur corps, on va forcément revenir sur la constitutionnalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui a été inscrite au Sénat sans modification hier. C'était pas gagné. Donc la Chambre haute, c'est l'autre nom de cette instance, qui est plutôt à majorité de droite, a bien voté hier en faveur de l'inscription de la liberté garantie, ce sont les termes exacts, pour les femmes d'avoir recours à l'avortement. Le Sénat aura fait un pas de côté donc inattendu par rapport à son héritage conservateur. Le projet de loi qui vise à inscrire donc la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à une IVG dans l'article 34 de la Constitution a bien été adopté à une très large majorité hier. 267 voix pour et 50 voix contre, faisant table rase d'un demi-siècle d'opposition régulière sur les grands textes régissant le droit à l'avortement, la majorité de droite donc du Sénat a finalement apporté un nombre de voix suffisant pour faire adopter ce projet de loi en des termes conformes à ceux qui ont été votés le 30 janvier à une très large majorité par l'Assemblée nationale. Ce feu vert des sénateurs ouvre donc la voie à une autre réunion du Congrès qui aura lieu à Versailles. Ça sera ce lundi 4 mars. Ça a été annoncé dans la foulée par l'Élysée. Et à ce moment-là, une majorité des 3/5 des parlementaires devra alors être trouvée pour faire aboutir cette révision donc de la Constitution. Et ça serait une première au monde. Plusieurs responsables de l'ONU ont déploré ce mardi dernier devant le Conseil de sécurité la propagation de la famine dans l'enclave palestinienne assiégée et bombardée par Israël. C'est le nord du territoire qui est particulièrement menacé par ces problématiques de famine. Ça fait plusieurs mois que les Nations Unies alertent sur ce désastre humanitaire en cours dans la bande de Gaza. Et pourtant, aussi sinistre que soit le tableau aujourd'hui, il peut encore se détériorer. C'était donc les mots de Ramesh Rajasingham au nom du chef du bureau humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths. Et c'était ce mardi 27 février qu'il a prononcé cela. Il s'exprimait dans le cadre d'une réunion qui a eu lieu devant le Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion consacrée notamment à la sécurité alimentaire dans l'enclave de la bande de Gaza. « Si rien n'est fait, dit-il, nous craignons qu'une famine généralisée à Gaza soit presque inévitable. » Nous sommes fin février, avec au moins 576 000 personnes à Gaza, ça fait un quart de la population palestinienne, qui est à un pas de la famine. C'est pratiquement la totalité des 2,2 millions d'habitants qui dépendent d'une aide humanitaire, terriblement inadéquate pour survivre, déplorait toujours ce porte-parole. Le nord de l'enclave, où se trouve notamment la ville de Gaza, se trouve massivement bombardé depuis le 7 octobre et est donc particulièrement menacé par cette situation. Par exemple, aucun convoi n'a pu s'y rendre depuis le 23 janvier, selon l'ONU, qui dénonce les entraves des autorités israéliennes. Celles-ci, bien évidemment, nient complètement et disent que c'est la faute de l'ONU qui ne sait pas s'organiser. Selon le scénario le plus probable, la production agricole se sera écroulée dans le nord du pays d'ici le mois de mai, souligné encore mardi devant le Conseil le directeur général adjoint de la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Au 15 février, dit-il, 46% des terres agricoles avaient été endommagées dans la bande de Gaza. Des bâtiments agricoles ont été dévastés, plus de un quart des puits pour puiser de l'eau ont été détruits, et 70% des vaches, 50% des petits ruminants ont été tués, et enfin, 97% des eaux souterraines ne sont plus utilisables pour la consommation humaine, ne peuvent plus puiser donc dans les nappes phréatiques. L'aide humanitaire continue d'entrer dans le territoire palestinien, mais au compte-gouttes. Lundi, ainsi, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens avait noté sur X, donc anciennement Twitter, que le mois de février avait vu une baisse de 50% de l'aide qui entre à Gaza par rapport au mois de janvier. Et pourtant, dit-il, cette aide est toute prête. C'est le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, qui l'expliquait. Près de 1000 camions qui sont chargés de 15 000 tonnes de nourriture sont prêts en Égypte. Les clés sur le contact, prêts à bouger. Dans une note adressée au Conseil de sécurité ce 22 février, Martin Griffiths, toujours de l'ONU, appelait donc celui-ci à agir pour assurer le respect du droit humanitaire, y compris l'interdiction d'utiliser le fait d'affamer la population civile comme méthode de guerre, ce qui est en effet reconnu comme un crime de guerre qui pourrait donc être retenu à l'encontre de la politique d'Israël. Le secrétaire général et les agences humanitaires de l'ONU réclament ainsi depuis le début de la guerre un cessez-le-feu immédiat, notamment pour permettre cet acheminement de l'aide humanitaire. Voilà un petit peu des infos là-dessus, et ça permet de vous donner aussi des dates de rendez-vous pour justement des manifestations qui auront lieu ce samedi. On a vu hier soir déjà un rassemblement Vigan pour exiger un cessez-le-feu en Palestine. Donc ce samedi, vous pouvez aller à 10h30 devant la mairie d'Alès, où d'ailleurs le nombre d'organisations et de personnes présentes qui s'annoncent augmente. Et à Nîmes, ça sera à 11h au départ du Carré d'Art. Puisqu'on parle un peu de l'armée et des militaires, on va parler de l'avenir de celle-ci, la jeunesse française qui fait maintenant... des stages qui s'appellent le SNU, le Service National Universel, une nouveauté pour l'instant facultative, mais vu l'air du temps, ce serait pas mal de s'intéresser quand même à ce qui s'y passe. Et ben, il y a eu un petit malaise, l'approche de chez nous, après la diffusion d'une vidéo qui a été réalisée par des jeunes, qui étaient donc en Service National Universel à Palavas-les-Flots. Ils ont fait une petite flash mob avec une chorégraphie, mais le problème, c'est le morceau de musique qui a été choisi. Choix musical déplacé, vu que justement le SNU est là pour prôner les grandes valeurs de laïcité de la République, et le choix du morceau, c'était Oh Happy Day, le fameux tube gospel, hein, qui n'est pas non plus bien méchant, mais où quand même, dès la deuxième phrase, on entend Jésus, Jesus come, je crois, Jésus va venir, il va nous sauver. Donc voilà, ça a un petit peu fait s'étrangler les internautes qui sont tombés sur cette vidéo. Les images de ce flash mob ont d'ailleurs été diffusées par la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault sur les réseaux sociaux, qui étaient plutôt contentes a priori du résultat. Mais voilà, de nombreux internautes se sont interrogés en effet sur l'utilisation de ce chant religieux dans le cadre du SNU, qui est à vocation républicaine et donc laïque. Et ils ont tous rappelé que le SNU coûtait quand même entre 2 à 3 milliards d'euros par an à l'État. Ce qui n'a pas forcément de rapport avec le morceau de musique choisi, mais pour dire en tout cas que ça... pas été une des réformes les mieux acceptées pour l'instant dans ce qui est proposé à la jeunesse. Il dénonçait donc notamment une laïcité à géométrie variable, hein, vu notamment le traitement médiatique et juridique d'autres religions, par exemple l'islam. Et de nombreux internautes ont relayé cette vidéo dans les heures qui ont suivi la publication, même si entre-temps, la direction des départements de l'éducation nationale de l'Hérault, elle, a retiré son poste. Mais trop tard, la vidéo a tourné et ça fait donc un gros bad buzz pour la direction académique. Et à noter que, comme le rappelle aussi cet article de Politis, c'est pas la première polémique liée au SNU dans la région. Il y a une dizaine de mois, l'Académie de Montpellier avait publié sur YouTube une vidéo qui vantait les mérites encore de son fameux SNU du côté de Palavas-les-Flots, en présentant le stage comme une sorte de camp militaire avec entraînement au tir et au combat, et en donnant d'ailleurs la parole à des jeunes qui témoignaient de leur goût pour ce genre d'exercice. Et c'est pas trop censé être normalement un remplacement du service militaire, le SNU, même si bon, on l'aura compris, entre les uniformes et les chants tous alignés, on en est quand même pas très loin. Le réarmement démographique, donc c'était peut-être pas tant que ça une métaphore en fait.
Mais qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
C'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
On va parler culture un petit peu et services publics toujours, avec ces fameux 200 millions d'euros qui vont disparaître des poches du ministère de la Culture, alors que justement ce ministère lançait son plan de refondation qui s'intitule « Mieux produire, mieux diffuser ». Le secteur apprenait donc jeudi dernier la baisse de près de 10% du budget dédié à la création artistique. La nouvelle ministre Rachida Dati, auréolée jusque-là de sa capacité à gagner des arbitrages, eh ben, elle se retrouve un petit peu affaiblie par la baisse brutale des crédits de la culture, donc son nouveau ministère, avec tous ces effets d'annonce qui tombent un petit peu à plat. Pour ce qui est de la réforme qui était prévue, donc c'était la mise en cause sont la saturation de l'offre des spectacles, des expos, des films, ce qui serait le signe du dynamisme de l'exception culturelle française, comme on aime à la nommer, ou alors plutôt de l'épuisement d'un modèle qu'il faudrait refonder. C'est donc la question de cet équilibre entre la production des œuvres et leur diffusion au plus grand nombre qui préoccupe le secteur depuis près de 20 ans. Mais depuis donc la mi-2023, le ministère de la Culture s'était donc lancé dans son grand plan de refondation des secteurs, notamment du spectacle vivant et des arts visuels, donc théâtre, art de rue, cirque et télé, cinéma, tout ça, avec une logique qu'ils ont appelée d'écologie de la création. Moins produire, a priori, bon, ça pourrait sembler quand même pas une trop mauvaise idée. Mais à l'heure donc où se lance ce fameux chantier de réinvention du secteur, qui s'appelle, je vous le rappelais, mieux produire, mieux diffuser, bon, j'imagine que c'était principalement des audits et des, pour l'instant, un état des lieux, et avec un budget de seulement 9 millions d'euros de budget, c'est quand même pas ouf, et ben, il se retrouve avec justement cette grosse coupe qui va surtout se diviser sur deux secteurs, donc la création et le patrimoine. Donc la moitié de ces 200 millions, dont on ne verra pas le bout du nez, vont être enlevés au secteur de la création, et l'autre, celui du patrimoine. 100 millions en moins pour la production d'œuvres, et ça fait à peu près 10% des crédits du programme normalement. Ils étaient donc visiblement à 1 milliard. Et c'est ce fameux programme qu'on appelle le programme 131. Donc c'est tout l'argent qui est normalement fléché vers la création et particulièrement dans le spectacle vivant. Par exemple, en payant des résidences à des artistes ou en permettant à des compagnies de théâtre d'aller bosser. Effectivement, c'est pas des moments où on rentre de l'argent normalement. Alors je vous le disais, l'autre secteur qui va saigner en plus de celui de la création, c'est celui du patrimoine. À peu près pour le même montant. Donc ils ont essayé un petit peu certainement de ménager le chou et la chèvre pour que cette mesure n'ait l'air ni de droite ni de gauche, puisque visiblement la culture c'est de gauche et le patrimoine de droite. Alors en tout cas cette annonce s'inclut dans une annonce plus large de celle de faire 10 milliards d'économies sur le budget de l'État, une annonce qui avait circulé donc quelques jours seulement, avant justement que son décret paraisse au journal officiel du 22 février et donne le décompte à 1 euro près. Donc le ministère de la Culture, si on est précis, est concerné à hauteur de 2% de ce total des 10%. Donc 204 millions de coupes, 95 millions pour la création, 99 millions pour le patrimoine. Il faut rajouter 8 millions, presque 9, pour le soutien aux politiques du ministère de la Culture. Ça, je pense que c'était le fameux chantier refondation. Et il faudra y ajouter 3,2 millions de diminution de masse salariale au ministère. Il y a aussi des têtes qui risquent de sauter. Pour ce qui est du patrimoine, qui était pourtant présenté comme une grande cause du quinquennat, ça gomme par exemple totalement l'augmentation des crédits de paiement qui avait été inscrite au budget 2024, pour plus 90 millions. Donc effectivement, si votent des augmentations d'un côté, mais qu'ils enlèvent du budget de l'autre, le final n'est pas génial. Alors, cet article, je crois que j'ai pris dans Télérama, dans Libé, se demande justement comment tous ces arbitrages et tractations ont pu aboutir à ce chiffre rond de 10 milliards. La culture, c'est pas la plus touchée, hein, parce qu'en valeur absolue, d'autres ministères prennent plus cher, comme par exemple celui de l'écologie. Tiens, ça c'est bien, la culture et l'écologie, c'est pas maintenant qu'on en a besoin. Donc le ministère de l'écologie, lui, perd 2,2 milliards d'euros. Voilà. Le ministère du Travail, 1,1 milliard d'euros. Et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, 900 millions. Cette coupe est placée dans le même registre que les dotations pour l'immigration, l'asile et l'intégration, ou pour le sport, la jeunesse et la vie associative. Concernant la culture, encore sonnée donc par cette décision désastreuse, selon les syndicats du secteur, c'est justement l'indignation. Nicolas Dubourg, le président du Syndéac, c'est le syndicat des entreprises artistiques et culturelles, se faisait le porte-parole de cette contestation avec une lettre ouverte qui a été adressée aux parlementaires mardi. On y lit ceci, le budget de la création est aujourd'hui doté d'environ 1 milliard, c'est 10% de ce programme qui est amputé et les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, quels que soient les établissements qui peuvent être touchés, c'est l'emploi qui va directement être attaqué, que ce soit l'emploi de permanents, de gens qui travaillent dans les structures, ou bien sûr l'emploi des artistes et des techniciens qui permettent la mise en œuvre de toutes ces activités. Pour lui, le gouvernement signe par cette décision la mort en nombre des structures et la disparition de l'originalité artistique et culturelle nationale.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Oula, il y a un petit doublon. C'est pas grave, on continue, on part en forêt. Enfin, on n'y partira peut-être plus parce que maintenant, se promener dans un massif forestier privé peut être puni d'une amende et ça peut aller jusqu'à 750 euros. Propriété privée des fences d'entrée, ce sont donc les types de panneaux qu'on peut voir de plus en plus depuis la promulgation de la loi sur l'accès aux espaces naturels privés. Cette loi, elle est toute fraîche, elle a été appliquée à partir du 3 février de l'an dernier. Et plusieurs massifs forestiers en font l'objet déjà, ils font l'objet de cette interdiction de fréquentation. Alors cette loi, elle vise à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Les contrevenants à ces interdictions risquent une contravention qui peut commencer à 150, mais ça peut monter à 750 euros. Voici ce qu'on en lit sur le média La Relève et La Peste. Il nous donne déjà l'exemple d'un massif forestier dans les Vosges, situé entre Neuweyerbach et Gustiberg. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Un gros massif forestier de 60 hectares qui sera bientôt interdit d'accès. En effet, ce domaine a été racheté par l'entreprise qui s'appelle Woodkopf. Et c'était un domaine qui était très prisé des randonneurs. Et bien justement, le club vosgien a reçu il y a quelques jours justement la demande de retrait de ces balisages touristiques de la part du nouveau propriétaire, Woodkopf. Le club vosgien, c'est une société qui promeut le tourisme pédestre dans les Vosges et qui assure d'ailleurs l'entretien des sentiers de cette zone. La raison officielle donc, de ce demande de retrait de balisages des sentiers, la protection de la faune et de la flore, selon donc l'entreprise. Ce n'est pas un cas isolé, donc je vous l'expliquais, cette privatisation de la nature, puisque depuis la mi-décembre de cette année, des panneaux propriétés privées ont aussi fleuri à la forêt de Villeneuve-Loubet, on est dans les Alpes-Maritimes, une forêt qui appartient au marquis de Panis-Passis, pareil dans le massif de la Chartreuse, où 750 hectares qui appartiennent au marquis Bruno de Quinsonnat-Oudinot sont désormais inaccessibles, sauf pour les chasseurs qui, eux, en louent l'accès. Et donc là aussi, des panneaux propriété privée défense d'entrée ont été apposés aux entrées de la zone. Alors cette loi, donc, elle est toute fraîche et son but, c'était de limiter l'engrillagement des espaces naturels et de protéger la propriété privée. Un texte qui entendait à l'origine lutter contre la pratique des enclos de chasse. Il a été porté par un député MoDem du Loiret, Richard Ramos. Plus précisément, cette loi a imposé une réglementation stricte des clôtures utilisées pour justement mettre fin à ces kilomètres de grillage qui se retrouvent au milieu de la forêt et qui forcément, en plus de gêner les baladeurs, modifiaient complètement les écosystèmes locaux, empêchaient la circulation de toutes les espèces. Donc avec cette loi, maintenant les clôtures doivent maintenant être posées à 30 cm au-dessus du sol, donc pour pouvoir laisser les petites bêtes passer dessous, et mesurer au maximum 1,20 m de haut, pour que tout le reste de la faune sauvage puisse se déplacer, à part peut-être, j'imagine, le grand gibier, et les humains, bien évidemment. Les propriétaires privés ne pouvant plus donc installer ces fameux grillages hermétiques, il fallait leur donner la possibilité de faire respecter leurs droits sur leur domaine, et c'est pourquoi on les a autorisés à poser ces panneaux interdisant l'accès aux propriétés, et en donnant aussi le montant des contraventions pour ceux qui seraient justement en infraction, je le rappelle, de 150 à 750 euros. Manon Meunier, qui est une députée insoumise de la Haute-Vienne, et Lisa Bellucco, elle dans la Vienne, députée écologiste, ont alerté sur les potentielles dérives de cette loi l'an dernier déjà. Le porteur du projet, Richard Ramos, n'estimait pas, lui, que son texte puisse remettre en cause la tolérance d'accès aux espaces naturels privés qui existe depuis longtemps en France. C'est donc une tolérance pour l'instant. Et bien, un an plus tard, justement, l'expérience montre qu'il faut faire autrement, explique une de ces deux femmes, Lisa Bellucco. Elle a d'ailleurs, face à ce constat, et avec un autre député écologiste de l'Isère, Jérémy Yordanov, déposé une proposition de loi le 8 novembre dernier pour justement supprimer l'infraction et revenir au droit antérieur. Cette proposition n'a pas encore été examinée à l'Assemblée. Les deux parlementaires militent donc pour essayer de l'inscrire dans la prochaine niche parlementaire des écologistes qui se tiendra le 4 avril 2024. Mais il y a beaucoup de monde qui veut accéder à ces niches parlementaires, donc pour l'instant, ils sont en train d'essayer de jouer un petit peu des coudes et des relations pour qu'on puisse en parler assez vite. Les enjeux de cette loi, en tout cas, c'était de rebâtir l'accès et le rapport à la nature, tout en respectant les droits des propriétaires, face notamment aux menaces dont il parle, par exemple les coupes de bois illégales, les dépôts de déchets sauvages et le pillage des ressources. Pour cet élu écolo, il faut arriver à trouver l'équilibre là-dedans. De nombreux pays, on pourrait s'en inspirer, ont inscrit dans leur constitution l'accès à la nature. C'est notamment le cas des pays scandinaves, mais aussi l'Allemagne ou la Suisse. Pour les deux députés français qui se questionnent sur la possibilité de faire quelque chose d'équivalent en France, où le droit privé est omniprésent et le rapport à la nature culturellement très différent, on regarde comment cela pourrait être transposé justement en France, mais pas dans les mêmes termes. Cette interdiction d'accès aux forêts, en tout cas pour la relève et la peste, est un symptôme supplémentaire de l'accaparement des biens communs qui ont lieu depuis plusieurs années. La relève et la peste, je précise, c'est le média, un média qui se fait l'écho de nombreuses luttes sociales aussi que je vous recommande. Ils sont en ligne, la relève et la peste, je pense que c'est .fr. Et on termine avec cette petite brève qui nous parle de répression subi par les militants environnementaux, je vous en parle très souvent, et je vous parlais de la venue de Michel Forst la semaine dernière sur le site de la ZAD et de là où les écureuils, donc perchés dans les arbres, s'opposent à la 69. Il a fait une déclaration, justement hier, ce 28 février, dans un long rapport sur la répression par l'État français des manifestations et de la désobéissance civile environnementale. Il dit ceci: la répression que subissent actuellement en Europe les militants environnementaux qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains. Là, il ciblait l'Europe en entier et pas que la France. Mais il dresse ensuite une longue liste justement de tout ce que les militants peuvent subir en Europe. Répression et brutalité policière, poursuites judiciaires, arsenal juridique répressif, atteinte à la liberté de la presse. Ce rapport, donc pour le compte des Nations Unies, je le rappelle, estime que les médias sont en partie responsables de la situation en utilisant des termes désobligeants et diffamatoires pour décrire les défenseurs de l'environnement et leurs actions, tout en omettant d'expliquer les raisons pour lesquelles les manifestants ont recours à de telles actions, quand ils ne se contentent pas simplement de reprendre les déclarations de la préfecture sans vérifier par exemple les faits ou les chiffres. Ce rapporteur de l'ONU s'inquiète également des atteintes à la liberté de la presse. Il donne comme exemple le cas justement de la journaliste de Reporter Elsa Souchet, qui est poursuivie alors qu'elle couvrait une manifestation contre les OGM dans l'Aveyron. Elle s'est retrouvée sur justement une action de fauchage et se retrouve elle-même inculpée pour les faits. Face à cela, donc, le reporter spécial des Nations Unies, Michel Forst, le rapporteur, pardon, estime que les États devraient prendre des mesures urgentes pour faire face à la crise environnementale. Au lieu de criminaliser les défenseurs de l'environnement, les gouvernements devraient s'attaquer aux causes profondes de leur mobilisation. Ils proposent aussi de modifier le discours politique afin de contrer les récits qui présentent les défenseurs de l'environnement et leurs mouvements comme des criminels. On peut même citer le mot terroriste qui fait des émules en France en ce moment. Il estime enfin que les États ne doivent pas utiliser la désobéissance civile environnementale comme prétexte pour restreindre l'espace civique et l'exercice des libertés fondamentales.
Quoi ? Ouais, vas-y, prends un avocat, ok, tu vas voir. Ok, ouais, c'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti.
Allez, c'est parti, il est 13h02, peut-être 20h02, si vous nous écoutez plutôt en rediffusion le soir. Je vous quitte avec le petit générique, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. Et d'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein ? Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.